Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec ce soir le comédien Emmanuel Noblet. Reprise des festivités, le théâtre nous attend et nous sommes sur le pied de guerre. Nous espérons des chocs esthétiques, des éveils de conscience, de la subversion, de l'irrévérence et de la transgression. Nous rêvons d'émotions et de pensées, cette pensée singulière, imprévisible, qui éclairera nos réflexions. Nous avons envie de rire et de larmes, nous voulons du corps et de la parole. Nous sommes impatients, avides et exigeants, car le théâtre, ça n'est pas compatible avec la demi-mesure aussi. Pour cette première d'une saison au théâtre, nous plongeons sans retenue dans un espace-temps qui ne souffre aucune concession, ce moment où la vie et la mort se regardent dans le blanc des yeux. Un jeune homme vient de mourir, son cœur bat encore, il faut le transplanter. C'est l'histoire de Simon et de ce cœur qui ne renonce pas, que déploie une représentation inoubliable. Que vous pourrez voir dès le 7 septembre au Théâtre du Rond-Point, une histoire qu'a écrite Maïlys de Kerangal dans son roman « Réparer les vivants ». Une histoire qu'adapte et joue sur scène notre invité du soir, Emmanuel Noblet. Emmanuel Noblet est au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h.
Emmanuel Noblet, pour moi, il a quelque chose à voir avec la beauté. Alors, ça va le faire rire d'entendre dire qu'il est lié à la beauté pour moi, mais ça va peut-être même le gêner un peu. Mais il y a d'abord la sienne de beauté, celle qui saute aux yeux quand on le découvre sur scène. Ça a été mon cas, et ça a été votre cas, je le crois aussi, dans ce spectacle « Réparer les vivants ». On se dit tout de suite qu'il est beau, ce comédien, physiquement, mais il y a aussi de la beauté dans sa façon de jouer tous les personnages du roman, avec beaucoup de talent, avec fougue, avec un engagement sur scène, avec aussi de l'humour, parce qu'il en a pas mal, il y en a aussi dans le texte. Il y a de la beauté à incarner ce cortège d'individus qui décide de donner la vie à partir de la mort. Je trouve ça beau aussi de prendre en charge théâtralement un roman qui parle d'un problème de société, de croire et de savoir qu'une langue romanesque peut devenir une langue destinée au jeu, une langue théâtrale, de prendre le pari que ça va marcher, que ça va toucher les spectateurs. Je pense que sa beauté a pu l'embarrasser parce qu'il a un physique romantique. Emmanuel, c'est un jeune premier et je pense que les cinéastes et les metteurs en scène jusqu'à présent, mais ça changera, pensent à lui pour jouer des amoureux, des médecins, des fils de bourgeois. Alors qu'il a envie d'autre chose, il veut des rôles sans limite, il est ambitieux et il a bien raison de l'être. Il sait qu'il peut prendre en charge des mots, de la littérature, et à force de travail, hein, c'est pas un coup de baguette magique, croire en ces mots et les porter vers nous. J'aime bien cette beauté-là. En ce moment, il s'intéresse par exemple à Boussole, le concours de Mathias Sénard. Il va certainement vivre une aventure en scène avec cet énorme roman qui parle entre autres de voyage, de culture et de musique. Et puis en plus de ça, dans la vie, quand on a la chance de se mettre à devenir son ami, eh bien on a avec soi une autre forme de beauté qui est cette amitié attentive, fidèle et drôle aussi. C'est quelqu'un qui imite à la perfection les autres. Vous pouvez lui demander d'imiter Bourville, François Morel, ou peut-être vous, Joël Gaillot, et je suis sûr qu'il réussira quelque chose de savoureux.
Bonsoir Emmanuel Noblet.
Bonsoir.
Avez-vous reconnu la voix qui parle au téléphone ?
J'en ai bien peur.
C'est Vincent Josse, notre camarade qu'on retrouvera cette année sur France Inter, qui a accepté de se prêter à l'exercice. Il a, comme moi d'ailleurs, vécu un choc en face de la représentation de Réparer les vivants qu'on a vu ensemble il y a un an maintenant au Festival d'Avignon, dans le Off, à la condition des soies. C'était la découverte sidérante d'un texte et d'un acteur. Le texte est celui de Maïlys de Kerangal, l'acteur c'était vous. Et ce mot de beauté que décline Vincent Josse, me paraît à moi aussi plutôt juste. Mais je me dis que finalement, si on a cette sensation de beauté, elle dépasse votre personne, elle englobe aussi ce qu'a été ce spectacle, qui était quand même un spectacle d'une grâce et d'une délicatesse totale. La beauté d'un spectacle, c'est très mystérieux. Est-ce qu'il y a du mystère dans ce qui a entouré ce spectacle, c'est-à-dire le succès qu'il a rencontré, Emmanuel Noblet ?
Oui, il y a du mystère et je ne m'explique pas tout. Et tant mieux d'ailleurs. Mais effectivement, il y a, et la création et déjà la manière dont je tombe sur ce texte, le jour de sa sortie, la veille même, puisque je lis un article du Monde littéraire exposant ce livre qui sort le lendemain. Et rien que dans la manière d'en parler, je sens que ça me touche déjà. Et je l'achète le lendemain, je le lis immédiatement et c'est une évidence pour moi qu'il faut m'emparer de ce texte. Et je le recopie immédiatement en me disant, bon, malheureusement il va falloir couper, et j'avance et de là naît déjà l'adaptation et la réflexion sur comment gagner du temps et donc projeter peut-être en vidéo, utiliser des voix off, réfléchir en termes de scénographie très légère dans un exercice du seul en scène. Et puis après, la vie s'est chargée de me faire des surprises sur cette création. Et puis, est-ce qu'il y avait un hasard dans tout ça? Peut-être pas. Ma vie personnelle aussi prenait... cet article du Monde s'appelait « Donner vie ». Et je savais depuis 2 mois que j'allais être papa cette année-là. J'ai pas fait gaffe sur le coup, je m'en suis rendu compte des mois plus tard. Et voilà, il y a énormément d'histoires, d'anecdotes, certaines tragiques, d'autres magnifiques. Mais à Avignon, là, à la première, quand j'arrive un peu à bout de souffle, ayant posé mes affiches tout seul et ayant fait ces répétitions d'un jet à la fin, grâce au CDN de Rouen qui avait fini par porter le projet, l'auteur est dans la salle et ce qui se passe là à ce moment-là avec le public et avec Vincent Josse et vous, là, la deuxième qui en parlait immédiatement et ce qui se produit à ce moment-là est très étonnant pour moi. Et, et ce que je vis maintenant... À force de jouer ce spectacle avec un bonheur infini, ce que je vis comme écoute et comme rapport au public, ça me touche énormément. Ouais.
On va parler de tout ça, Emmanuel Noblet. Vous dites que ça a été une évidence, mais une évidence qui tient à quoi ? Au fait qu'il y avait dans ce texte déjà une chose qui était dite qui vous touchait très très personnellement, ou au fait qu'il y avait aussi dans ce texte de Maïlys de Kerangal une théâtralité qui vous a sauté aux yeux tout à coup ?
Oui, une théâtralité parce que c'est une tragédie, donc je vois immédiatement le côté théâtral là-dedans. Je vois, moi c'est une envie d'acteur aussi, parce que je découvre cette langue, je connaissais pas les romans de Maïlys avant, bêtement, et je découvre cette langue, et là c'est un matériau pour un acteur qui est extraordinaire, parce que on a une poésie, un lyrisme, et on a des phrases extrêmement concrètes, rapides, courtes, d'autres qui font 2 pages, et ce matériau-là pour un acteur, c'est à travailler, c'est moderne, c'est actuel, c'est vif, c'est lyrique, et c'est bouleversant. J'ai adoré ça tout de suite.
Il y a aussi plusieurs temporalités et plusieurs rythmes à l'intérieur de ce roman de Maïlys de Kerangal que vous avez restitué sur la scène. Le rythme qui est lié à l'urgence de l'opération, le rythme qui est lié aux réflexions intérieures de chacun des protagonistes. Ça a été compliqué d'arriver à capter tous ces rythmes différents et à les rendre simultanément, Emmanuel Noblet ?
Alors,
ça a été une part importante du travail ?
Oui, c'était une part importante, mais une partie était résolue par cette idée simple, que j'ai pas inventée, qui consistait à projeter les heures. Le bouquin s'ouvre à 4h...
5h50.
À 5h50, oui, c'est ça. Il se finit à 5h49 40, le lendemain. Ouais. Et en projetant ça, et les heures qui rythment le roman, j'amenais et l'urgence, le suspense, et la narration de ça. Et ça m'évitait de le dire, je pouvais me concentrer sur d'autres parties. Et les temporalités des autres personnages, elles sont très imbriquées dans le texte et il y a effectivement quelques flashbacks qui étaient un peu complexes à rendre, mais ça m'a obligé aussi à couper certaines parties là où j'aurais adoré conserver certaines scènes. Le plateau imposait qu'on passe à autre chose, malheureusement.
Et est-ce qu'il y a des personnages auxquels vous avez renoncé ?
Pas vraiment, à part les enfants de Claire qui reçoit le cœur et son compagnon aussi qui sont évoqués, pas vraiment. Mais le livre étant tellement concentré sur le don plutôt que la réception, ça me paraissait, et puis moi ouais, ça me paraissait bien de rendre mystérieux cette femme qui reçoit. Elle est moins développée dans le livre que la famille qui donne.
Et en même temps, on l'attend tout le temps, hein, cette femme.
Ouais.
Cette femme de 50
ouais.
ans qui est en train de mourir et ouais. qui va être sauvée grâce au cœur de Simon.
Et de fait de pas trop l'avoir, je me disais aussi qu'on pourrait s'identifier. On a plus de chances de devoir bénéficier d'une greffe un jour que de risque de se voir poser cette question terrible de est-ce que vous êtes donneur ou pas. Et cette notion-là, d'ailleurs, je trouve, donne à réfléchir.
Alors, on va écouter plusieurs sons dans cette première saison au théâtre. Emmanuel Noblet, vous avez souhaité voir apparaître des figures, et notamment des figures d'acteurs. Le premier, c'est un immense, immense comédien, c'est Jean-Louis Trintignant.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les sages acunus dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, si le soleil est froid, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas mourir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni
une très
le
légère fêlure dans la voix de Jean-Louis Trintignant qui lit le poème de Boris Vian, Je voudrais pas crever. Elle tient à quoi la tendresse tout le monde d'ailleurs peut ressentir pour un acteur comme Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Noblet?
Ah, je sais pas, c'est mystérieux ça aussi, mais sa voix me touche, sa sensibilité, sa pudeur, sa délicatesse, et puis il a une élégance aussi, je trouve, dans le métier, à dire bon ben là je me retire, j'ai plus l'âge pour attendre que la lumière soit bonne lors d'un tournage dans le cimetière de Limoges, je m'en vais. Et c'est pas de la coquetterie, on sent l'homme qui a besoin de vivre et d'être près de ses oliviers. Moi je connais pas ce monsieur, je l'ai croisé une fois, j'étais allé le voir au théâtre, je me suis permis de lui dire quelque chose après, alors qu'on est toujours terriblement maladroit, et je me souviens qu'il m'avait pris les avant-bras comme ça, sans rien dire vraiment, mais en me regardant droit dans les yeux, et je l'ai pris comme un encouragement, comme quelque chose qui disait tiens bon, vas-y, t'es au bon endroit peut-être. Enfin, je me suis raconté ça, j'adore ce monsieur.
Vous n'êtes pas le seul. Vous avez quelque chose en commun avec lui, malgré votre jeune âge, Emmanuel Noblet, c'est cette capacité à jouer à la fois pour le théâtre et à capter le gros plan, ou à susciter le gros plan. Et ça, c'est très flagrant d'en réparer les vivants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez cinématographique dans cette façon d'attirer à vous le zoom. Et en même temps, ça reste quand même du jeu théâtral, comme si vous étiez un peu sur un film, à la fois très adressé au public et totalement dans l'intime, totalement dans l'intimité.
Peut-être, je m'en rends pas bien compte. Je sais que je trouve que l'écriture, et j'ai essayé de le renforcer dans la mise en scène, l'écriture induit ça. On est sur elle écrit comme on fait du montage cinématographique, et on sent des gros plans, on sent des plans larges. Donc sans doute que ça opère aussi sur scène. Moi, si
pas
j'ai
pas sur scène, sur vous.
Ah oui, bon, tant mieux. Je me rends pas bien compte. Parce que là où je me vois un point commun avec ce monsieur, j'ose le dire, mais c'est parce que j'ai adoré l'écouter parler de sa carrière, et il disait que jeune acteur, il était pas du tout intéressant, et que, alors que dans Et Dieu créa la femme, il est déjà formidable, mais quand il le voit, il dit j'étais nul, etc. Et il dit que la vie a travaillé sur lui, l'a densifié. Et moi, j'ai aucun complexe à dire que j'ai ça. Il a fallu que la vie fasse son œuvre. Au point que ça fait 15 ans que je fais ce métier, et c'est là que je me mets en scène, et je trouve ce dont je veux parler, je sais de quoi je veux parler et comment le faire, et j'ai enfin pris un peu en épaisseur.
D'ailleurs, est-ce un hasard, Emmanuel Noblet, si vous m'aviez raconté que souvent les rôles que vous jouiez auparavant, et vous avez beaucoup joué notamment avec Catherine Yeagel, c'était des rôles où vous étiez maquillé, grimé, perruqué, où on ne vous reconnaissait pas nécessairement. Est-ce un hasard si vous, tout à coup, vous apparaissez dans la lumière avec un texte qui lui-même est dans une lumière très particulière, qui est un texte qui se situe entre la vie et la mort? C'est-à-dire qu'on est pris dans une intensité, dans une urgence à laquelle il est difficile de se soustraire et de se dérober. Vous vous êtes placé à un endroit d'équilibre, là encore, particulièrement périlleux.
Oui, moi c'est vrai que dans mon parcours, Vincent Josse disait que j'aurais un physique de jeune premier. J'ai jamais joué de jeune premier, par
exemple,
au théâtre.
Mais c'est vrai, vous avez un physique de jeune premier.
Mais on me les a pas donné ces rôles-là, et je faisais des jeunes seconds. J'avais fait rire Catherine Hegel en disant ça. Mais c'est vrai, je faisais des jeunes seconds et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours me faire des rôles de composition, essayer qu'on me reconnaisse pas. J'adore ça. Et voilà. Après, cet endroit entre la vie et la mort, qui est l'exact endroit du bouquin, moi, ça me touche beaucoup, et je saurais pas l'expliquer. Ma sœur jumelle a une explication là-dessus. Elle dit que c'est parce qu'on a été grand prématuré dans un service de réanimation quelques jours et même quelques semaines après en couveuse. Mais entre la vie et la mort, et elle me disait, mais peut-être ça a laissé des traces. Et voilà. En tout cas, je sais que cet endroit-là de conscience de la vie et des bonheurs qui existent, et ce vertige à se dire que ça va pas durer longtemps, ou on sait pas combien de temps, et que c'est menacé tout le temps, cet équilibre-là, je le trouve bouleversant.
On va écouter le deuxième acteur que vous souhaitiez entendre dans une saison au théâtre, lui aussi, autre grand acteur, autre grande voix et autre grand physique, c'est Michel Piccoli.
Sorry Angel, c'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Sorry, Angel. Sorry, so. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige? Des veines, qui sait, un voyage, un seul aller au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Sorry, Angel. Sorry, soul. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine. Je sais que c'était fou d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. Sorry, Angel. Sorry, so. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais, maintenant tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. Sorry, Angel. Sorry, so. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines. Je sais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours, à jamais. Sorry, Angel, sorry, so. Sorry, Angel, sorry, so.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Michel Piccoli, Serge Gainsbourg et un petit peu de ce film magnifique, Les choses de la vie. J'aurais tendance à penser, Emmanuel Noblet, que vous êtes un peu comme Piccoli, c'est-à-dire vous êtes un faux calme. Et qu'être calme à ce point-là, ça veut dire qu'il y a dessous quelque chose de l'ordre de la fureur qui doit être caché. Est-ce que vous êtes vraiment calme au-dedans? Parce que vous êtes très calme aussi sur le plateau, mais c'est un calme agité, hein, comme une mère.
Ouais. Ah oui, je suis peut-être un faux calme. Ouais, j'ai des susceptibilités, j'ai quelques fulgurances, mais un naturel plutôt calme. Et je trouve que c'est une forme d'attention aussi à ce qui se passe autour, le calme. C'est une écoute et c'est une veille. Et je suis prêt à bondir, oui, peut-être.
Moi, j'ajouterais au propos de Vincent Josse, qui disait que vous avez un physique de jeune premier, que vous avez un peu le physique d'Anthony Perkins, mais dans Psychose, vous savez. L'assassin qui se cache sous le jeune homme propre sur lui.
Ben, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à jouer des pervers ou des sacrés salopards, mais derrière un sourire.
Un vernis impeccable.
Ouais. C'est génial, j'adore faire ça, bien sûr.
Vous étiez un grand spectateur de théâtre avant d'avoir cette aventure qui vous est tombée dessus, et heureusement de réparer les vivants, et aussi avant d'avoir un petit enfant. Et ça vous est plus compliqué d'y aller aujourd'hui. Ouais. Quand vous alliez au théâtre, vous alliez y chercher quoi?
Ce que je ne sais pas. et tout, des histoires. C'est quand même un des endroits où on se sent le mieux au monde. On s'assoit et on est plongé dans le noir. Et là, on peut tout nous raconter. Et c'est valable aussi dans le fauteuil du cinéma. Mais des textes, du sens ou des visions de la musique, des émotions. Et moi, je lis pas les feuilles de salle avant. Je veux pas savoir. Je préfère ne pas connaître, ne pas avoir vu la bande-annonce d'un film, ne pas savoir ce qu'il en est. Et être surpris. Et quand en plus après je vois dans la feuille de salle la réflexion du metteur en scène ou d'un tel qui, et que ça colle, parce que parfois ça colle pas du tout, et là je me dis oui, il y a un travail, ça s'est passé, ça j'ai aimé, ça me touche. Et voilà, un des lieux où on se sent mieux.
Et au bout d'un an de Réparer les vivants, qui s'est promené un peu partout dans toutes les salles, vous avez le sentiment que les gens, ils viennent chercher quoi en venant voir ce spectacle, Emmanuel Noblet ?
Alors, il y a ceux qui ont lu le roman, qui viennent en se disant « Ouh là là, faut pas toucher à mes émotions et à « j'ai aimé ce livre ». Donc ça, au début, je les redoutais parce que j'avais peur de les décevoir. Et je sens maintenant, à force de l'entendre, qu'ils retrouvent le livre. Donc ça, je suis heureux de ça. Je vois aussi des gens qui viennent chercher un peu des informations ou en tout cas s'interroger sur cette chose-là, sur ce sujet de société, et puis des gens un peu qu'on a un peu poussé, traîné, et après je vois des gens venir se connecter à un endroit d'eux-mêmes ou de leur histoire familiale, parce que souvent ils en parlent après dans la voiture, et j'ai plein de retours d'après-spectacle de gens qui parlent du don d'organes et de ce rapport à la mort et de la vie, la mort, et c'est très touchant ces retours que j'ai.
Est-ce que si ce spectacle fait à ce point du bien, et je le dis d'autant plus volontiers que c'est ce qui s'est passé pour moi, et que je crois que c'est quand même assez rare au théâtre, c'est un spectacle qui fait du bien, ce n'est pas aussi parce qu'il y a à l'intérieur du roman de Marie-Élise de Kerangal, et donc dans la représentation et le choix que vous avez fait de l'adaptation, Emmanuel Noblet, une sorte d'opération de conversion, c'est-à-dire que la vie et la mort, au fond, c'est pas que c'est la même chose, mais la mort se transforme en vie. Et on va bientôt recevoir Claude Régis dans cette émission, et Claude Régis dit qu'il faut cesser d'opposer les contraires. Il faut cesser de créer des antagonismes entre des choses qu'il faut travailler de la même manière. Et c'est ce que vous faites avec Réparer les vivants. Vous travaillez la vie et la mort d'un même geste.
Oui,
et ça console au fond, ça fait du bien.
Je crois, et je voyais, il y a des rencontres souvent, même avec des professionnels de santé après le spectacle, et il y a un coordinateur qui disait cette chose très belle, il disait, mais nous en fait, on fait un travail d'alchimiste, et que ce plomb de la douleur infinie, de la perte d'un proche pour une famille, il est transformé en or pour d'autres, une joie ailleurs, parce que les gens qui reçoivent un organe, leur vie change, ils renaissent, ils revivent. Et il y a de ça, effectivement. Et j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais vous dire.
On va écouter un peu de musique. Le fil va vous revenir, Emmanuel Noblet. Pendant ce temps-là, on écoute un extrait que vous avez aussi choisi. C'est Riccardo Muti. Il dirige le chœur de l'Opéra de Rome et il dirige la Traviata de Verdi. Et soudain, il s'arrête. Hein, il se tourne vers le public. Il le prend à partie, s'appuyant sur la Traviata et ce qui est dit dans la Traviata, pour lui dire à quel point l'assassinat de la culture en Italie est concernant. Et il propose à ce même public de reprendre avec le chœur, si connu, Va Piancero de Verdi, qui pour lui parle de cette Italie qu'il aime. Je ne sais pas si on peut reprendre ses esprits avec une musique pareille,
ouais.
Emmanuel Noblet.
Ce qu'il y a de formidable là dans ce qui se passe avec le public et le roman de Maëlys, c'est ça aussi, c'est que le roman, il inscrit une histoire qui est à l'inverse des modèles de notre société. C'est-à-dire que là où on cherche un sens un peu à la vie, là où nos seuls modèles seraient la célébrité, l'argent, et on s'en sort pas de ces choses-là. elle amène une histoire où c'est le don d'organes est gratuit, anonyme, et il donne la vie. Et c'est quand même la seule chose, même si on cherche lequel, mais c'est la chose qui a du sens. Et je sens que les spectateurs, ils repartent avec cet enthousiasme-là.
Comment est-ce qu'on fait, Emmanuel Noblet, et là on parle en connaissance de cause, parce que quand on écoute ce morceau de Verdi, on a des frissons qui nous gagnent dans le dos. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte, est-ce que vous faites, que l'émotion ne devienne pas pathos?
Ah oui.
Est-ce que vous êtes, d'une certaine façon, obligé de vous surveiller vous-même pendant la représentation pour surtout pas ouvrir à cette chose qui est terrible, qui est le pathos?
Oui, alors, lors du travail, c'était une vigilance constante de ne pas sombrer dans le pathos. Et puis, je savais aussi qu'en demandant à Benjamin Guillard, qui est un metteur en scène par ailleurs, à qui je demandais une place particulière juste de collaborateur, parce que je voulais garder les décisions finales de mise en scène, mais je lui demandais de me diriger comme acteur, et c'est un formidable directeur d'acteur, et il m'a aidé aussi à rester sur ce fil pour jamais sombrer dans le pathos, mais laisser le temps à l'émotion. Et puis trouver aussi des moments de légèreté.
Oui.
Il y en a, heureusement, parce que le livre est un passe de la vie à la mort, comme ça, sur un claquement de doigts, et donc il y a des moments légers, et qui font du bien, mais c'est vrai que la fatigue aidant et l'abandon de certaines représentations font que parfois je suis fébrile.
Oui, j'imagine que le public n'est pas forcément le meilleur allié dans ces cas-là, parce que le public aussi il a envie de l'émotion.
Oui, j'entends quelques mouchoirs qui sortent de leur sachet plastique parfois, donc voilà, mais c'est justement dès que j'entends ça, je me dis allez hop, faut faire le con, faut faire autre chose, faut faire diversion, allez, faisons quelque chose de joyeux, et parfois c'est par la joie que vient l'émotion aussi. Parce que la vie gagne, et c'est ça qui sort de cette histoire.
Vous avez assisté à une transplantation pour préparer ce spectacle ?
Alors, pas une transplantation, mais je travaillais avec un chirurgien pour avoir des images qui servent un petit peu d'arrière-plan que je projette sur un cyclo. Et comme je posais beaucoup de questions pour savoir comment ça se passe au bloc, pour le jouer un peu, pour savoir où se trouve l'infirmière, les différents chirurgiens, il m'a dit « mais viens voir ». Et je suis allé voir, et donc j'ai vu la taille de l'ouverture. C'était pas une transplantation, c'était un changement de valve mitrale, et j'ai vu ce cœur s'arrêter.
Ah oui.
La circulation extracorporelle qui se met en place. Et après ce long travail de couture de ces chirurgiens qui font des blagues, qui écoutent Elton John à fond dans le bloc et qui s'engueulent avec l'anesthésiste qui dit « Oh non, quand même, tu nous emmerdes avec Elton John » et qui font ce travail et après le cœur repart. Quoi. C'est dingue, complètement dingue.
Alors, ça fait un an, Emmanuel Noblet, que vous êtes sur ce seul en scène. Votre désir, après réparer les vivants, c'est de continuer sur ce chemin-là du seul en scène. Je sais que vous avez un projet, il le disait Vincent Jost le disait en ouverture, avec le texte de Mathias Sénard, Boussole.
Oui, Boussole, ça a déjà joué. La première était le 3 septembre. Et lecture concert pour l'instant, avec deux instrumentistes, pianiste, violoncelle et un acteur, Olivier Dautré. Et alors là, effectivement, je suis en train de travailler quelque chose qui m'intéresse, qui est la transplantation, c'est le cas de le dire, de la littérature au théâtre. Et le texte de Mathias Sénard est prodigieux, richissime, difficile à adapter, mais je crois qu'il y a là une forme de narration et d'adresse au public qui marche assez bien.
On peut le voir où ça ?
Alors en France, ce sera au Théâtre du Nord à Lille le 16 octobre.
D'accord.
Et puis il y a une tournée qui va s'organiser. Et moi, mes envies, après, elles sont de... je vais continuer à réfléchir à des choses de mise en scène, mais j'ai des envies d'acteur et pas seul en scène. J'ai envie de retrouver des camarades de jeu et...
d'être en troupe.
Oui, et de retrouver aussi la direction d'autres metteurs en scène. J'aime tellement être là et être manipulé comme un pantin. Et j'aime ça, ouais.
Alors moi, je pense qu'il y a des rôles dans Tchekhov qui vous iraient très bien, Emmanuel Noblet, mais je crois qu'il y a aussi des rôles dans Ibsen qui pourraient très bien vous convenir. Et je vous vois bien dans un Richard III de Shakespeare.
Ah oui.
Oui. Qu'est-ce que vous en dites ?
Richard III ou d'autres ?
Richard III.
Richard III. Eh ben, moi, j'ai touché un tout petit peu Shakespeare pour l'instant. Cette langue incroyable qui donne des ailes. J'espère bien y retourner. Richard III, ce serait intéressant. Richard II aussi, j'avais bossé un monologue de Richard II. Ouais, mais en tout cas, c'est des rendez-vous comme acteur. Je n'imagine pas ne pas repasser par Shakespeare et Tchekhov, bien sûr.
Et nous, on n'imagine pas ne pas vous y voir.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort.
Merci beaucoup Emmanuel Noblet d'être venu nous voir pour cette première d'une saison au théâtre. Je rappelle que Réparer les vivants, adapté pour la scène et joué par vous, c'est au théâtre du Rond-Point du 7 septembre au 9 octobre et que donc on pourra vous voir aussi dans Boussole de Mathias Sénard à Lille au mois d'octobre.
Je mets en scène, ce sera Olivier Dautré au plateau.
Et vous mettez en scène. Vous pouvez réécouter et surtout vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
La nuit je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains.
Marie Dalquier, Pierrick Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue et vous souhaite une très belle année théâtrale à venir à l'écoute de France Culture. Tout de suite, les fictions présentées par Blandine Masson.
Où subsiste encore tous mes goûts. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort.